Emmanuel Macron, le chef de l'État, était l'invité hier des organisateurs de la Grande Boucle. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Excellente matinée à tous.
Et le retour de l'info, ce sera tout à l'heure à midi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Fréquence Association. Comment se portent les associations? Comment se porte la vie associative? C'est un peu l'objectif de l'Observatoire Régional de la Vie Associative qui dresse le panorama régional de ce monde associatif depuis 2014. Son but est d'en dresser un portrait en toute objectivité. Thomas Lowers, Benjamin Varvin, que sont membres de l'ORVA, ils ont accepté justement de faire part de leurs impressions à RCV à Lille.
Depuis 2014, l'ORVA, Observatoire Régional de la Vie Associative, a pour objectif de dresser le panorama régional du paysage associatif en toute objectivité. Thomas Lowers, administrateur de l'Observatoire, nous présente son histoire.
L'ORVA, Observatoire Régional de la Vie Associative des Hauts-de-France, a été créé en 2014, officiellement en tant qu'association, mais c'est un projet qui remonte à la fin des années 2000, puisqu'à cette période-là, on avait un constat qui était partagé à la fois au national et au local par des acteurs de l'accompagnement associatif, sur le fait que le secteur associatif en tant que tel était mal connu. Alors on lui attribuait déjà un tas de bonnes choses, hein, ce secteur, des qualités en termes de cohésion sociale, d'activité, de dynamisme citoyen, mais on avait très peu de chiffres. À titre de comparaison, quand on prend l'analyse de la population par la statistique publique ou l'analyse du secteur privé marchand, donc les entreprises, on a énormément de chiffres qui permettent de définir ce que c'est ce secteur ou enfin ces secteurs-là, alors que les associations étaient relativement méconnues. Donc au niveau national, ça a été un peu amélioré durant les années 2000 par des travaux liés à des chercheurs, notamment du Centre d'économie de la Sorbonne. Et par contre, au local, on avait toujours peu de choses, alors que des décisions d'action publique locale devaient être prises. Le réseau national des maisons des associations a commencé à mettre en place des questionnaires et des démarches d'observatoires locaux de la vie associative. Et assez naturellement, on a plusieurs centres d'accompagnement de la vie asso qui se sont regroupés, donc la Maison des associations de Lille, la Maison des assos de Tourcoing et la Maison des associations de Roubaix, ainsi que la Maison régionale de l'environnement et des solidarités, pour se doter d'un observatoire local. Donc là, on est en 2008, et le projet a pu émerger en 2010 au niveau de la métropole lilloise uniquement au démarrage. Assez rapidement, le soutien des acteurs publics et une volonté d'un groupement d'acteurs régionaux a permis d'étendre le projet. Donc on se retrouve fin 2013, début 2014 avec l'idée de passer directement sur la région Nord-Pas-de-Calais et ensuite dans la foulée sur la région des Hauts-de-France.
Quel est le but de l'ORVA ?
En termes d'objectifs, le but était à la fois d'améliorer la connaissance statistique du secteur sur des éléments qui sont assez faciles à obtenir, notamment sur tout ce qui est aspect économique, puisque la statistique publique possède des chiffres sur ces éléments-là, mais qui n'étaient pas utilisés ou pas analysés jusqu'ici. Donc les premiers travaux ont porté sur l'analyse de l'existant et le faire connaître auprès du public, hein, puisque le but c'est aussi d'améliorer la connaissance pour que les acteurs du monde associatif s'en emparent. Donc ça c'était un premier point. Le deuxième point, ça a été de créer des éléments de connaissance sur ce qui n'existait pas, c'est-à-dire mettre en place des enquêtes et des études qui viennent combler un peu les trous de la raquette, c'est-à-dire qu'on puisse connaître exactement ce qui se passe dans le monde asso, les apports, et qu'on ne se contente pas des quelques données chiffrées qui étaient déjà disponibles. Alors pour nous, l'enjeu, c'était essentiellement qu'on ne réduise pas le monde associatif à des coûts ou à des charges pour les politiques publiques, parce que souvent, les collectivités territoriales peuvent avoir ce prisme-là de dire « ça coûte autant à la collectivité ». Nous, notre but, c'était essentiellement de dire « les associations produisent toutes ces conséquences positives là sur notre territoire. Donc le poids économique, le poids en termes d'emploi, mais surtout la dynamique citoyenne, le nombre de personnes qui se mobilisent pour porter des actions citoyennes, le nombre de projets citoyens qui se mettent en place, les retombées pour un territoire d'avoir une vie associative qui soit dynamique. Voilà, nous, c'est un peu tous ces enjeux-là qu'on a essayé de traiter au cours des dernières années.
Quels outils utilisez-vous pour réaliser vos travaux ?
À l'origine, donc vraiment les premiers outils qui ont été mis en place, c'est le Réseau National des Maisons des Assos, donc le RNMA, qui a proposé un questionnaire visant à mettre en place un état des lieux de la vie associative sur des petits territoires. Donc ça, c'était un premier point. C'est une dynamique qui est en place depuis 2007 et donc du coup, on se l'est réapproprié au niveau local, métropole lilloise, puis un peu après sur différentes villes des Hauts-de-France. Donc ça, c'est un premier outil commun, partagé, qui a évolué, qui s'est amélioré sur une dizaine d'années. Le but étant de pouvoir, sur un même territoire, évaluer un peu les évolutions de ce territoire-là. Donc ça, c'est un premier questionnaire assez global. On a un deuxième outil assez important qui est le panorama de la vie associative régionale. Donc ça a été développé en 2016 pour la première fois. Le but était de pouvoir avoir une fiche globale des chiffres principaux de la vie associative sur chacun des territoires intercommunaux de la région, plus les départements, plus l'ensemble de la région. Donc c'est une sorte d'état des lieux, un panorama global. En 2-3 coups d'œil, on peut avoir une vision de ce qui se passe sur un territoire, le nombre d'emplois, etc. Ça couvre l'ensemble des intercommunalités. Autre outil qu'on a développé toujours sur un aspect quantitatif, c'est un baromètre sur la santé financière des structures associatives. On l'avait développé en 2017 pour la première fois parce qu'à ce moment-là, on sentait des évolutions à la fois sur les façon de financer le monde associatif, sur les modèles économiques de ces structures-là, également sur des décisions publiques comme la fin des contrats aidés, etc. Donc ça pouvait mettre à mal le secteur. Le but a été de développer un baromètre qui puisse être passé quasiment tous les 2-3 années pour voir comment évoluer la situation financière des assos. Alors c'était pas limité d'ailleurs aux associations, on était en partenariat avec la CRES, Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, sur une évaluation de l'ensemble des acteurs de l'ESS.
Avez-vous réalisé des enquêtes avec d'autres acteurs ?
En parallèle, on a eu des sollicitations ou des partenariats plus précis sur des enquêtes très thématiques. Donc, en passé, par exemple, avec les services de l'État en région, on a eu une enquête sur la transition numérique des comités des ligues sportives. Donc, là, c'était vraiment pour évaluer comment, en quelques années, le mouvement sportif avait pu ou non prendre le virage du numérique et en quoi c'était un atout pour ces structures-là. Donc, on l'a mené avec le CROSS, Comité Régional Olympique et Sportif, qui gère l'ensemble des ligues et comités sportifs de la région. On travaille toujours en partenariat, nous, de toute façon, dans la manière de mener les enquêtes, parce que seul, on n'y arriverait pas, puis ça aurait assez peu d'intérêt. Donc on est toujours associé à différents acteurs. Le CROSS fait d'ailleurs partie de l'Observatoire régional de la vie associative.
Comment fonctionne l'ORVA ?
Dans la manière dont on a structuré l'association quand elle a vu le jour en 2014, notre but était de croiser tout ce qui pouvait correspondre à la vie associative dans son envergure régionale. Le secteur associatif est composé de composantes sectorielles. On a le sport, la culture, etc. On a aussi des composantes territoriales, donc des maisons des associations, par exemple, qui ont un travail beaucoup plus localisé. Nous, notre but, ça a été de regrouper tous ces acteurs-là. On est à 18 administrateurs au sein de l'ORVA aujourd'hui. On n'est que composé de réseaux associatifs, donc on n'est pas des individus, on est vraiment sur des structures associatives qui se regroupent pour mener ces travaux-là. Prendre la direction globale, politique de ce que l'organisation va mener comme travaux. Voilà, c'est vraiment partagé, collectif, collégial également, pour ensemble décider de ce qu'on va enquêter, de ce qu'on va aller chercher sur le terrain pour mieux parler de la vie associative et donner à voir ce qui existe. Nous, en tant qu'association qui produit de la connaissance, on n'a pas vocation à avoir une parole politique, alors politique pas au sens partisan, mais politique au sens global, c'est-à-dire qu'on analyse le plus objectivement possible les éléments que l'on trouve, que l'on développe sur le terrain. Derrière, les questions de plaidoyer ou d'usage des chiffres qu'on peut mettre en avant sont réalisées par les acteurs qui composent soit l'ORVA ou soit les acteurs qui représentent le mouvement associatif global dans la région. C'est-à-dire que nous ne sommes pas là pour porter une parole précise au nom du monde associatif. Nous sommes là pour donner des éléments et après les acteurs associatifs ou les pouvoirs publics s'emparent des éléments qu'on leur fournit. Mais en tant que tel, nous n'avons pas vocation à créer du plaidoyer. On peut le nourrir, on peut l'alimenter par les chiffres et nos analyses territoriales, mais en tant que tel, nous ne formons pas une organisation ayant vocation à orienter les choses avec un prisme politique. On essaie d'être le plus objectif possible.
Benjamin Vanvin, qui est le chargé de mission de l'ORVA, il nous présente la situation actuelle de la vie associative dans les Hauts-de-France.
En ce moment, on travaille justement sur la mise à jour du panorama des associations des Hauts-de-France. La dernière version du panorama avait été publiée en 2016. Donc actuellement, il y a 10 155 associations employeuses dans les Hauts-de-France, ce qui regroupe quand même 197 569 salariés associatifs. Donc le secteur associatif, c'est 10,5% des emplois de la région. Les associations, au total, puisqu'il n'y a pas que des associations qui sont employeuses, mais aussi des associations qui n'ont pas de salariés, on estime environ à 97 600 le nombre d'associations actives dans les Hauts-de-France.
Y a-t-il des disparités régionales au niveau de la répartition des associations ?
La situation du tissu associatif régional, c'est une situation qui peut être très différente selon les territoires. C'est pour ça que le panorama 2020 de la vie associative va être décliné prochainement EPCI par EPCI, c'est-à-dire communauté de communes par communauté de communes, voilà, pour montrer des chiffres plus précis localement sur la vie associative régionale. Mais c'est sûr que dans des zones comme le département du Nord, est beaucoup plus représenté dans la vie associative des Hauts-de-France, puisque bah, il concentre un bassin de population d'abord. Et par exemple, si je prends les chiffres qu'on est en train de mettre à jour, le Nord regroupe 46% des associations employeuses des Hauts-de-France. Et c'est 55% des salariés associatifs des Hauts-de-France qui sont situés sur le département du Nord.
La vie associative est-elle une particularité régionale ?
On a une tradition associative qui est forte. Les associations ont toujours un poids important sur le territoire et l'ont encore. Et d'ailleurs, c'est un territoire qui reste très dynamique. Par exemple, on a environ 4814 créations d'associations en moyenne par an. Donc ça montre aussi le dynamisme associatif sur le territoire.
Y a-t-il une évolution du type d'association récemment créée ?
On a toujours trois secteurs qui sont majoritairement représentés dans les créations de nouvelles associations. C'est la culture, par exemple, qui représente environ 24% des créations d'associations. C'est les loisirs, 19,4% des associations créées sur le territoire des Hauts-de-France. Ou encore le sport, avec 18,4% des associations qui sont créées sur le territoire. Viennent ensuite l'éducation, la formation, la défense des droits des causes, et après on arrive dans des pourcentages un peu plus faibles. Les associations de l'environnement, c'est à peu près 3,5% des associations qui sont créées.
Si vous souhaitez découvrir plus précisément l'Observatoire, vous pouvez vous rendre sur le site orva.fr. Un reportage réalisé par Flore Lheureux de RCV.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France, une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Voilà pour ce panorama assez complet hein, des associations dans la région Hauts-de-France.
Chaque jeudi matin, à partir de 9h, Radio Plus vous propose des magazines et reportages. Vous faites partie d'une association ? Venez partager vos activités. N'hésitez pas à nous contacter au 09 52 22 22 07. Ou sur contact@radioplus.fr.
On va parler à présent d'entrepreneuriat féminin avec nos confrères de RPL Radio Paco Lambersart.
S'appuyer sur la solidarité et l'entraide féminine pour aider les femmes à franchir les marches de l'entrepreneuriat, voici le projet porté par La Petite Porte. Basée sur un principe d'égalité des chances, cette formation, proposée en ligne, encourage les femmes à ne plus avoir peur d'être ambitieuses. L'objectif de La Petite Porte ? Faire grandir la confiance en soi, souvent plus fragile chez les femmes, et qui devient parfois un véritable frein. Rencontre le 2 septembre 2020 avec Flore Montoya, co-créatrice avec Nicolas Velay de La Petite Porte. Après avoir évolué dans le monde de l'humanitaire, Flore lance avec son associé au mois de mai dernier la formation La Petite Porte.
J'ai travaillé avec des réfugiés dans la première partie de ma carrière. Et je me suis intéressée, j'ai un peu changé de profil et je me suis intéressée au monde de l'innovation et de la création collaborative un peu plus tard dans une espèce de démarche pour arriver à faire des choses concrètes et qui pouvaient changer le monde à beaucoup plus petite échelle que ce que je faisais dans l'humanitaire, mais de façon aussi plus directe. Et c'est dans ce cadre-là que l'idée de La Petite Porte nous est venue. On est parti du constat que les femmes qu'on croisait, y compris beaucoup de porteuses de projets, beaucoup d'étudiantes avec qui on travaillait, avaient souvent moins confiance en elles que les hommes quand il s'agissait de lancer leur projet, ou de se mettre en avant, ou de négocier un salaire, ou de demander une promotion, enfin plein de choses dans la vie quotidienne professionnelle. Et on s'est demandé un peu d'où ça venait, parce que ça nous a surpris. Et en fait, en creusant un peu, on s'est rendu compte que c'était beaucoup d'éléments qui étaient un peu transmis de façon informelle aux hommes, comme par exemple le leadership, le fait de négocier son salaire, et que ces éléments-là étaient moins transmis aux femmes, notamment parce que je pense que c'est des choses qui sont vraiment intégrées dans la société, c'est-à-dire que c'est pas vraiment fait exprès, mais de fait, on apprend moins aux femmes à prendre la direction d'un projet quand elles sont enfants, ou à mettre en avant leurs accomplissements en étant fières, par exemple.
Et c'est face à ce constat que Flore et Nicolas sont partis à la recherche de précieux conseils.
Ce qu'on a fait, c'est qu'on a sollicité des femmes qu'on trouve inspirantes de tous les milieux, que ce soit des entrepreneuses, que ce soit des sportives, que ce soit des coachs aussi. Et on leur a demandé de nous donner des conseils, en fait, pour aider les femmes à améliorer leur confiance en elles. Et c'est ce qu'elles ont fait. Et en fait, c'est de là qu'est née La Petite Porte. Donc, c'est un programme vidéo en ligne qui est gratuit, dans lequel, en fait, on met en avant ces femmes inspirantes et leurs conseils. Et donc, nous, on fait un peu le lien entre toutes ces femmes et on formalise le programme, c'est-à-dire qu'on y ajoute aussi des choses plus pédagogiques, des exercices par exemple sur la négociation ou sur le fait de se présenter, de savoir pitcher une idée, ce genre de choses.
Un programme en ligne gratuit dans lequel des intervenantes bénévoles issues de parcours très différents interagissent, donc apportant chacune des récits d'expériences très complémentaires.
On a commencé par les femmes qu'on connaissait, par notre réseau, et puis petit à petit, on a écrit à des femmes qu'on connaissait moins ou que des contacts de contacts. Et puis là, on en est à un stade où, en fait, c'est vraiment des personnes qu'on sollicite, avec lesquelles on nous a mis en lien, ou parfois juste on les sollicite comme ça, un peu à froid. Et je dois dire qu'on a vraiment, en fait, eu des réactions très positives. Ce qu'on demande, ce qu'on propose, en fait, à nos intervenantes, c'est une interview filmée avec elles, sur un thème sur lequel on se met d'accord à l'avance, qui correspond à leurs compétences. Et en fait, on leur propose de les filmer sur ce thème-là pendant une heure et de discuter avec elles. Donc finalement, c'est pas un engagement trop chronophage, parce que c'était une problématique, puisque nos intervenantes sont bénévoles. Elles choisissent de s'exprimer sur le thème de la confiance en soi, mais à titre bénévole. Donc une des problématiques, c'était que ce soit pas trop prenant, forcément. Donc voilà, la formule marche plutôt bien. Elles acceptent de nous donner une heure de leur temps et de participer au programme. Et nous, on les met en avant, évidemment, en les remerciant. Donc en fait, jusqu'ici, les réactions sont plutôt positives. Je pense que les femmes se retrouvent beaucoup dans cette idée de sororité, de transmettre aussi les choses qu'elles ont apprises sur le tas. Parce que c'est souvent des compétences qui sont un peu apprises au fur et à mesure d'une carrière, quoi. Par exemple, récemment, on a eu dans notre team d'intervenantes Florence Masnada, qui est une double médaillée olympique en ski et qui a accepté de participer. Et typiquement, c'est une expérience assez extraordinaire d'être sportive de haut niveau comme ça. Et elle a des choses à dire sur la gestion du stress, par exemple, la confiance en soi, le fait de d'évoluer dans un monde finalement masculin en étant une femme et de s'y imposer jusqu'à y réussir. Donc c'est aussi des profils un peu atypiques qu'on recherche.
Et le 30 août dernier, c'est dans les pages du quotidien régional La Voix du Nord qu'une des membres de l'équipe de La Petite Porte prêtait ses mots. Alexia Van Leer, étudiante lilloise à Sciences Po, qui est également chargée de développement stratégique pour La Petite Porte. Des intervenantes présentes dans la région Hauts-de-France, donc, mais La Petite Porte évolue partout en France.
Il y a des membres de l'équipe donc à Lille, à Lyon, à Paris et également à Toulouse. Donc en fait, on travaille beaucoup à distance. Je dirais pas que c'est un projet particulièrement ancré géographiquement, mais bon, les personnes qui le composent, elles, forcément, ont des liens.
Si l'équipe s'étend à travers l'ensemble de l'Hexagone, c'est parce que cette difficulté réelle pour les femmes de s'imposer dans un monde de l'entreprise et de l'entrepreneuriat, un univers essentiellement masculin, se constate aussi dans tout le pays. Et c'est ainsi que La Petite Porte propose à toutes et à tous d'obtenir les clés et les codes de la réussite grâce à des récits d'expérience et de précieux conseils offerts par des femmes ambitieuses qui chacune, à leur manière, font preuve de réussite dans leur quotidien. Retrouver sa confiance en soi et limiter l'autocensure constitue par ailleurs l'un des axes principaux de cette formation. Un aspect devenu souvent fragilité qui s'observe à travers les chiffres. Les femmes demeurent peu représentées dans les postes à haute responsabilité, tout comme l'inégalité salariale perdure. À l'échelle locale comme à l'échelle nationale, les chiffres en témoignent, puisque dans les Hauts-de-France, en 2019, seuls 21% des chefs d'entreprise étaient des femmes.
Pourquoi ce chiffre, qui peut paraître assez bas, finalement? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas les bonnes structures pour accompagner les femmes, ou est-ce que c'est finalement une raison un peu plus souterraine? Je pense que les structures de plus en plus existent, il y a quand même beaucoup de programmes, beaucoup d'incubateurs qui naissent et qui se tournent particulièrement vers les femmes pour leur proposer de porter leurs projets et de les accompagner. En revanche, de manière plus profonde et peut-être moins claire, il y a quelque chose qui se joue dans finalement l'état d'esprit nécessaire pour lancer son projet. Et pour lancer son projet, il faut en fait avoir vraiment confiance en soi, il faut savoir se dire qu'on en est capable, qu'on va avoir les épaules pour le porter, le bon réseau, qu'on va pouvoir aller jusqu'au bout, enfin plein de choses en fait qui relèvent vraiment de la psychologie. Et c'est sur ce genre de critères que nous on veut agir. Sur en fait pouvoir se mettre dans le bon état d'esprit pour lancer son projet, par exemple, d'entreprise.
Ce projet, qui propose une manière de penser et d'avancer différente pour les femmes, s'inscrit alors, sur certains aspects, dans une démarche féministe.
Pour moi, le féminisme, c'est un idéal d'égalité entre les hommes et les femmes. Et c'est en fait le fait de pouvoir faire tout ce qu'on veut, quel que soit son sexe, quel que soit son genre, de pouvoir vivre la vie comme on l'entend. Et ça touche autant les hommes que les femmes. Donc oui, bien sûr, il y a un idéal en fait d'égalité et de pouvoir se débarrasser des choses qui nous freinent pour pouvoir être la meilleure version de nous-mêmes.
Et pour qu'elle reste accessible à tous, la formation est totalement gratuite, un mode de fonctionnement qui n'inclut pas l'idée de rentabilité.
On s'est beaucoup posé la question de comment faire vivre ce projet-là, notamment financièrement. Et en fait, on a pris la décision de faire un programme gratuit parce qu'on voulait vraiment que ce soit quelque chose d'accessible à tout le monde. C'est aussi pour ça qu'il est sous forme de vidéos en ligne qui sont vraiment facilement accessibles où qu'on soit, partout en France. Il n'y a pas besoin de vivre dans la capitale, par exemple, pour aller à des ateliers. Et donc, sur le côté financier, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on propose à des entreprises de sponsoriser le programme, certains de ces épisodes, sur un thème qui leur parle, qui correspondent à leurs valeurs, notamment leurs valeurs qu'elles veulent mettre en avant via leur politique de RSE. Et on leur propose en fait de devenir partenaire pour financer un épisode, par exemple sur un thème qui leur convient, la confiance en soi, la négociation, le fait d'apprendre à présenter un projet. Voilà, donc c'est comme ça qu'on vit.
Et à la fin du programme, chaque participante se voit remettre un diplôme, gage de progression chez les différentes participantes. Si vous aussi êtes sensible à ces questions et vous sentez concerné par la proposition de La Petite Porte, rendez-vous sur le site lapetiteporte.com ou sur les différents réseaux sociaux associés, LinkedIn, Facebook, Instagram ou encore Twitter.
On est toujours en recherche d'intervenantes pour qui veulent participer, qui sont inspirées par notre sujet et qui ont l'impression qu'elles ont des choses à dire. Donc que s'il y a des personnes qui nous entendent et qui sont intéressées et qui pensent qu'elles pourraient avoir des choses à dire sur le sujet, qu'elles nous écrivent, qu'elles nous contactent sur notre site, Et pour les personnes qui n'ont pas l'impression d'avoir des choses à dire, mais qui pourraient avoir des choses à apprendre, je les encourage à s'inscrire et à partager autour d'elles, évidemment, puisque on est un jeune programme, on a été créé en mai, et donc on est en train de grandir et on a aussi besoin de faire parler de nous.
Un programme féminin qui, après avoir passé la petite porte, grandit progressivement, restant ouvert et accessible à tous, également aux hommes.
C'est ouvert à absolument tout le monde. D'ailleurs, c'est pas réservé aux femmes. S'il y a des hommes qui veulent s'inscrire, ils ne sont pas bannis du tout. C'est un programme qui a vocation à parler aux femmes parce que nous, on pense qu'il y a un problème à régler, ou en tout cas, ce qu'on appelle du coup en anglais le confidence gap, c'est-à-dire l'écart de confiance qu'il faut combler. Mais s'il y a des hommes qui sont intéressés pour monter en compétence sur la confiance en soi ou simplement pour découvrir le profil de nos intervenantes et ce qu'elles ont à dire sur le sujet, ils sont les bienvenus également.
Le 2 septembre dernier, Flore Montoya nous ouvrait ainsi sa petite porte, invitant les femmes à oser franchir les barrières de l'autocensure pour les mener vers de nouvelles réussites personnelles et professionnelles. Puisque quand certaines portes se ferment brutalement, il reste toujours la petite porte.
C'est l'idée que parfois, pour arriver au même endroit que tout le monde, en l'occurrence que les hommes, il faut prendre des chemins détournés, notamment quand on est une femme, et il faut parfois arriver à être plus créative, plus inventive, plus débrouillarde finalement pour arriver au même point. Et c'est un peu ça l'idée, c'est d'ouvrir la petite porte sur le côté pour aider les femmes à la passer et puis arriver à un moment où elles auront suffisamment confiance en elles pour lancer leurs projets, défendre leurs idées, gérer leurs équipes, faire tout ce qu'elles veulent faire en fait.
Un reportage réalisé par Manon Serène pour RPL Radio. Une émission proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France, une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Et une formation qui peut évidemment intéresser de nombreuses femmes dans les milieux associatifs. Allez, tout de suite, on passe à un tout autre sujet dans Fréquence Association. On va s'intéresser à l'association des mineurs marocains du Nord et du Pas-de-Calais qui lutte depuis de nombreuses années pour la reconnaissance de leurs droits. Un reportage signé Pastel FM à Roubaix.
L'association des mineurs marocains du Nord-Pas-de-Calais est née à la fermeture des mines en 1989 pour permettre, au travers de permanences sociales et juridiques, de faire valoir les droits des familles et de vivre dignement malgré les nombreuses discriminations subies et les nombreuses difficultés d'adaptation. J'ai rencontré et interviewé le président de cette association.
C'est Samad Abdallah, venant du Maroc pour travailler dans les mines de charbonnage de France dans le Nord-Pas-de-Calais. Et je suis arrivé en France en 1963. J'ai travaillé au fond de la mine et j'ai eu un accident grave en 67. Et les ouvriers voulaient me mettre dehors, comme beaucoup de Maghrébins. Une fois qu'il est malade ou accident de travail ou une fois qu'il est scanté, et bien on le renvoie dans son pays d'origine, soit l'Algérie ou le Maroc. À l'époque, il n'y a pas encore beaucoup de Tunisiens. Donc, c'est de là que je devenais un peu à la fois syndicaliste, mais aussi militant.
Est-ce que vous pouvez nous parler de votre association ?
Alors, notre association a été créée suite à la fermeture des mines, parce que le charbonnage a toujours manipulé les Marocains, qui a été recruté par Félix Moura. Au moment qu'ils ont déjà pensé, dans les années 55-60, la fermeture des mines, ils ont pensé que les Marocains peuvent faire l'affaire pour fermer les mines. Même s'ils ont fait venir d'autres, comme les Kabyles, moi j'ai dans les archives un courrier dans lequel un recruteur a promis des personnes gusto et des alphabètes, qui était destiné aux Algériens. Ça, c'est bien dans les années 30-40. Alors, les mines continuent à fonctionner. Et c'est les Marocains qui continuent à reprendre le relève un petit peu. Mais les Marocains, ils ont été toujours traités de cette manière-là. Une fois qu'il est malade, ou silicosé, ou tuberculeuse, ou un accident ou quoi, il renvoie au Maroc. Je me rappelle, on a fait une journée de grève au matin de bonheur, pour un Algérien qui a eu un petit accident, Il a été à l'hôpital 3-4 jours. Et quand il est revenu, au bout de 10 jours, il doit reprendre le travail. Le directeur dit, on n'a plus besoin de toi. On n'a pas de place. Et il était voir les syndicats. Le syndicat peut dire la CGT, quoi. Et ils nous ont tout de suite arrêtés. On ne rentre pas. On fait grève pour cette personne-là. Et 8 heures du matin, le directeur a tout ouvert, a tout dit, ça y est, je le prends. Parce que l'objectif, c'est de travailler 2-3 ans et ramasser un peu d'argent, retourner au pays et faire sa vie. Malheureusement, comme on dit, un ouvrier n'est jamais riche. On continue à chaque année à aller voir la famille et on revient. Jusqu'au moment que les charbonnages voudraient absolument accélérer la fermeture des mines. Et c'est là qu'ils ont commencé à nous harceler, à nous envoyer quoi, par toutes les pressions, à la fois autorisées l'amicale des travailleurs marocains, comme ça a été autorisé celui des Algériens. On a résisté grâce à la grève de 87, de 80 d'abord, dans laquelle on a obtenu le statut des mineurs. On n'a jamais été traité comme les autres mineurs. Mais les OIR, les charbonnages ne peuvent pas faire marche arrière. Ils ont signé un fameux accord avec l'ambassade du Maroc, Paris, qui leur permet de revenir à la charge pour renvoyer les Marocains chez eux, avec un peu de petit pécule d'argent. Et c'est de là que ça a été déclenché la grève de 87 qui a duré 2 mois.
Pourquoi avoir créé cette association?
Alors, cette association a été réfléchie, a été créée, parce que quand les mines ont fermé, les syndicats ils sont plus sur le terrain, à la mine. On constate que beaucoup de Marocains ont des problèmes pour faire valoir leurs droits. Parce que pendant la fermeture des mines, ils étaient déjà discriminés, ils n'étaient pas traités comme les autochtones. Donc, il est tout à fait légitime que cette association soit mise en place. Nous, en tant que les mineurs qui ont été recrutés par Félix Moura au Maroc, c'est des gens naïfs, je dirais même des alphabètes, quoi. On n'est pas en mesure de s'organiser. Mais grâce aussi à des militants comme la TMF, Association Travailleurs Marocains en France à Paris, ils ont des sections un peu partout, mais aussi aujourd'hui, qui est devenue d'ailleurs Association de Travailleurs Maghrébins de France. C'est eux qui nous ont soutenus pendant la grève, mais ils nous ont aussi aidés à créer cette association.
Y a-t-il encore d'autres actions que vous avez menées?
Tout à fait. Donc ça, c'est, je dirais même, parmi les premiers. Et après, on a manifesté, on est rentré aussi, avec l'aide, bien sûr, du syndicat, à l'NGR à l'époque, pour régulariser les situations de ceux qu'on appelle les célibataires, parce qu'ils doivent payer les loyers. Pourtant, ils ne sont pas célibataires parce que leurs enfants ils sont au bled. Ils ne peuvent pas les faire venir parce que c'est difficile. Il faut louer un logement, il faut payer le loyer pendant 6 mois, 1 an, faire tous les papiers. Il y en a beaucoup qui n'ont pas les moyens administratifs, intellectuels. Sinon, ils travaillent, ils ont un salaire, mais organisent tout ça. Et puis aussi, des personnes qui souhaitent toujours retourner au pays d'origine. Donc, ils leur font payer les loyers qu'un mineur, normalement, il ne doit pas payer. Et aussi derrière, suite, je dirais, aux conversions, retraite anticipée bidon, dans laquelle les gens, ils touchent... À l'époque, en francs, 2300, 2400 francs par mois. On n'a jamais vu une retraite de 13 ans ou de 14 ans. Donc, ils ont manipulé les gens. Là, on a organisé aussi l'occupation de la NGDM. Et on a aussi manifesté à Lens et aussi à Avion. Et aussi, on a aussi occupé pendant 11 jours, encore une fois, la NGDM. Ça doit être 2006 ou 2005. Et aussi, on a gagné le procès auprès d'hommes, tellement qu'ils n'étaient pas... ils ne croient pas, quoi, les charbonneurs, parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir ces gens-là qu'on a été chercher. On les a toujours traités comme des... comme rien, se mettre debout et nous mettre au tribunal. Donc, ils ont été un peu dérangés. Et ils ont fait appel. Et cour d'appel de Douai, on a gagné. Ils ont fait appel également au cas de cassation. On a gagné également. C'est-à-dire les personnes qui étaient discriminées par rapport au logement. puisque pendant la fermeture des mines, a mis en avant un système. Toute personne qui part de la mine en retraite ou en validité ou quoi, peut bénéficier de rachat des avantages en nature. Soit il a acheté la maison dans laquelle il est logé, il paye avec un prêt vraiment pas cher, soit il touche une indemnité qui lui permette d'acheter d'autres logements ou de construire d'autres. Par contre, les Maghrébins, sauf ceux qui ont la nationalité française, peuvent bénéficier, ben, ils ont été exclus. Plus choquant encore, c'est que à l'époque, c'est la politique entre la droite et la gauche. Lionel Jospin, qui était premier ministre, ils ont signé un accord avec la Pologne pour que les Polonais puissent bénéficier parce que la Pologne n'était pas encore entrée à l'Europe.
Nous sommes toujours en compagnie de monsieur Samat Abdellah, président de l'Association des mineurs marocains du Nord-Pas-de-Calais. Comment est-ce que vous vous êtes organisé?
On a fait les dossiers, on a fait des réunions, on a mis en place un collectif dans lequel l'AIMAMAN gère, préside même, mais c'est eux qui jouent le rôle de décision. Donc on a préparé les dossiers avec ce collectif et on a désigné 4 avocats, un à Valenciennes, un à Douai et un autre à Lens. Et l'avocat qui nous a soutenus, qui a été mis en place pour nous par la HALD, qui est devenu maintenant défenseur de droit, on l'a aussi sollicité, nous a soutenus. À l'époque, c'est Maître Tilly de Roby. Donc, 5 avocats qu'on a mis en place dans le Nord-Pas-de-Calais. Et les dossiers continuent. Malheureusement, ils n'ont pas gagné la première fois parce que il faut vraiment les traiter, ces dossiers-là, il faut connaître les situations. Mais la IMAMAN, l'Association des mineurs marocains Nord-Pas-de-Calais, continue à soutenir ces personnes-là pour gagner comme les autres. Sans parler de les veufs, sans parler des personnes âgées, ils sont fatigués, ils ne se rappellent plus comment ils vont faire. On le soutient, on continue. Et aussi, même, je dirais, d'autres qui viennent, rien à voir avec la mine, mais on les reçoit, on écoute, même les réfugiés, même les, je dirais, les migrants arrivant d'autres pays, quand ils attendent que l'association essaye toujours de venir en aide, eh ben on les reçoit, on essaye de les soutenir et de les aider. Et à mon avis, l'État français, les organismes qui nous soutiennent financièrement, ils croient qu'on est des adversaires de la société ou des charbonnages. Moi, je dirais que c'est le contraire. Parce qu'on aide des personnes, des citoyens français ou des citoyens qui sont là, mais aussi corriger les erreurs qui ont été commises par les charbonnages et d'autres. Je dirais même l'administrative française. Parce qu'il y a la discrimination encore aujourd'hui dans l'administrative.
Est-ce que vous pouvez nous parler de la situation actuelle de votre association?
Alors, ce que je viens de dire, il me semble qu'il y a un lien avec tout ça, parce que je dirais l'association a été un petit peu abandonnée par l'État. Avant, il y a eu le Fonds d'action sociale. Ils l'ont supprimé. On a fait les dossiers en 2019. On n'a même pas eu de retour écrit de dire « vous n'avez pas le droit, vous n'avez rien ». Et il est possible qu'on l'a fait un peu tard, dépasser un peu la date dans laquelle on doit déposer. 2020, on a fait un dossier. Ils nous ont répondu que votre dossier rentre pas dans les créneaux. On a refait un autre grâce aussi à les militants comme Moussa Alam et d'autres qui nous ont conseillé et comment il faut faire aussi. Maintenant, on attend la réponse. La date a été dépassée pour avoir une réponse. On n'a pas encore de réponse. Actuellement, on n'a plus de salariés. Il n'y a que nous, avec les anciens salariés qui viennent nous soutenir une fois ou deux par semaine, on essaye de mettre l'association en avant pour qu'il ne soit pas fermé, en attendant de voir comment on peut obtenir, si c'est possible, les subventions. En attendant, grâce à la cagnotte, qui commence quand même à être enrichie, mais aussi c'est nos enfants qui ont mis un petit peu de moyens, et on a aussi d'autres citoyens français, je dirais, et d'autres qui ont quand même participé.
Est-ce que vous pouvez nous donner les coordonnées de la cagnotte?
Alors, les coordonnées, ils sont un peu je dirais, dans les réseaux sociaux. Je vais laisser mon numéro de téléphone ou celui de l'association, 03 27 96 23 34. Le mien aussi, 06 12 37 23 et 57. Toute personne qui souhaiterait peut nous trouver. Il suffit de chercher l'Aïmaman par l'internet, trouvera les coordonnées et tout ce qu'il faut, voilà, pour nous soutenir, pour nous aider, pour aider l'association, pour venir en aide à ceux qui ont besoin quotidiennement.
Nous étions, en ce jour du 29 juillet 2020, en compagnie de Monsieur Samat Abdellah, président de l'Association des mineurs marocains du Nord-Pas-de-Calais. Sujet réalisé par Christian Lazaoui pour Radio Pastel.
Une émission proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Merci donc à Christian Lazaoui pour ce reportage toujours très intéressant de Pastel FM, donc sur l'association des mineurs marocains du Nord-Pas-de-Calais, association que j'avais d'ailleurs reçue il y a déjà une bonne dizaine d'années, je dirais.
Radio Plus sur internet au www.radioplus.fr et par téléphone au 09 52 22 22 07. Radio Plus, la radio pas comme les autres.
Allez, on souffle un peu avec Sandra et Maria Magdalena. Et juste après, ce sera l'actualité associative sur Radio Plus. Excellente matinée. Et les chansons comme ça, on se demande de quoi ça parle en fait. On les chante tout le temps et puis finalement, voilà. C'était Sandra avec Maria Magdalena. Bien, tiens, cette histoire de chanson Maria Magdalena de Sandra. Allez, tout de suite, on passe à l'actualité associative pour clore cette émission Fréquence Association. Et on a beaucoup d'annonces évidemment à vous faire concernant le milieu associatif. Alors 1,3 milliard d'euros pour l'économie sociale et solidaire, dont les associations. C'est le gouvernement qui a dévoilé le 3 septembre dernier son plan de relance, axé autour de trois grands volets, vous le savez, l'écologie, la compétitivité et la cohésion sociale. Un plan de 100 milliards d'euros, dont 1,3 milliard d'euros, donc qui vont aller directement aux acteurs de l'économie sociale et solidaire, dont font partie certaines associations. L'emploi, en particulier des jeunes, est une des grandes priorités, raison pour laquelle près de 600 millions d'euros devraient bénéficier aux structures de l'économie sociale et solidaire qui favorisent donc l'insertion professionnelle de ces jeunes, et 200 millions d'euros, dont 200 millions d'euros pardon, dédiés à l'insertion par l'activité économique. Alors sachant toujours dans ce registre que le dispositif Parcours Emploi Compétences, qui est utilisé dans de nombreuses associations également, hein, associations employeuses bien sûr, est quant à lui abondé de 200 millions d'euros supplémentaires et 190 millions d'euros bénéficieront également aux missions locales, à l'accompagnement des jeunes en service civique et aux associations sportives. D'autres mesures sont prises par le gouvernement. 100 millions d'euros vont être destinés à soutenir directement les associations de lutte contre la pauvreté. Et ça, justement, je pense qu'on en reparlera d'ici quelques jours sur Radio Plus, avec des associations qui ont été sur le terrain durant le confinement, notamment le Secours Populaire Français. On essaiera de voir ça dans les prochains jours. Et 30 millions d'euros sont à destination des tiers-lieux ruraux dans le but de développer des actions d'inclusion numérique. Alors, réaction de l'association Le Mouvement Associatif, elle se réjouit, je cite, de cet acte attendu de reconnaissance du rôle de cette économie et des acteurs qu'elle incarne dans la résilience et le relèvement du pays. Mais le mouvement associatif déplore l'absence de soutien global à la sauvegarde et au développement de la vie associative. Fin de citation. Le mouvement associatif qui demande également le renforcement du fonds de développement de la vie associative, mais également que le dispositif Parcours Emploi soit réadapté et envisager également d'autres formes de contrats aidés. 80 millions d'euros collectés par les associations Vilia Hello Asso. Créée en 2009, Hello Asso est une entreprise solidaire d'utilité sociale qui fournit des outils numériques gratuits aux associations, dont notamment la fameuse plateforme de collecte que vous connaissez certainement. D'ailleurs, son modèle économique est uniquement basé sur les contributions volontaires. Cette plateforme a d'ores et déjà permis de collecter pas moins de 80 millions d'euros depuis le début de l'année, et au total plus de 300 millions d'euros en 11 ans de mise en service. Le site a permis d'organiser des actions très rapidement. Ainsi, la campagne don-coronavirus.org, lancée dès le début du confinement, a récolté plus de 8 millions d'euros, avec plus de 1000 collectes d'urgence à destination des soignants, des publics les plus fragiles ou du soutien à la vie quotidienne. Encore des chiffres, 20 millions d'euros pour les associations de proximité. C'est une annonce de la ministre de la Ville, Nadia Haï, dans le cadre du fonds d'urgence Quartier Solidaire. Ce fonds est destiné aux associations de proximité dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Pendant le confinement, les associations de proximité ont largement prouvé leur utilité avec la mise en place de soutien scolaire, de distribution d'aide alimentaire ou encore de confection de masques. 5 millions d'euros de soutien leur avaient alors été attribués, puis 5 autres millions pour l'opération quartier d'été afin d'accompagner la mise en œuvre d'activités sportives, culturelles et éducatives à destination des jeunes. Cette nouvelle enveloppe de 20 millions d'euros qui a été confiée au préfet est disponible depuis la mi-septembre. Elle sera affectée à des actions à mener d'ici à la fin de l'année ou jusqu'au premier semestre 2021 dans les domaines suivants: l'éducation et la lutte contre la fracture numérique, la santé et l'aide alimentaire, l'insertion professionnelle et la culture, avec une priorité donnée aux actions à destination des femmes. Dans le cadre de sa troisième journée nationale pour les garages solidaires, la fondation PSA organise en partenariat avec l'Avise un webinaire consacré aux leviers de soutien à la création et au développement de ces garages, pas comme les autres, hein. Rendez-vous donc le 5 octobre prochain en ligne avec une conférence présentant notamment des outils gratuits pour créer et développer un garage solidaire et les accompagnements possibles. Les ateliers de l'après-midi sont réservés aux membres des garages solidaires. Une journée gratuite, mais l'inscription est obligatoire. Tous les détails sur le site de la fondation PSA. Et puis, on termine avec le réseau national des maisons d'associations qui organise un webinaire sur la responsabilité des dirigeants d'associations face à l'application des protocoles sanitaires. Ça aura lieu jeudi prochain, le 24 septembre, de 10h à 11h30. Au programme de ce webinaire, un rappel tout d'abord des définitions des responsabilités civiles et pénales d'un responsable associatif, des bénévoles et des adhérents, histoire de comprendre les enjeux face aux risques encourus. Ensuite, ce webinaire parlera de l'application du décret du 10 juillet avec un exemple de protocole sanitaire mis en place pour gérer les salles dédiées aux associations de la ville de Rouen. Et à la fin de ce webinaire, les participants sont invités à poser leurs questions. Évidemment, tous les détails sur le site du réseau national des maisons des associations. Puis, petite conséquence de l'épidémie du coronavirus, sachez que les pratiques de bénévolat à distance se sont multipliées pendant le confinement et elles font partie désormais des pratiques de deux tiers des bénévoles des associations. Voilà, c'est la fin de cette émission Fréquence Association. Je vous remercie de l'avoir suivi. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec Microscope sur Radio Plus. Je vous souhaite évidemment une excellente matinée à l'écoute des programmes de Radio Plus. Rendez-vous également à 11h. N'oubliez pas d'en savoir plus. On parlera évidemment de l'actualité du moment, la fermeture de l'usine Bridgestone à Béthune. Bonne matinée.